La culture n'empêche pas une certaine inculture. La culture s'approche d'une façon d'être, d'une fête, d'un coup de foudre toujours inachevé du bonheur. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Mesdames, Messieurs, les lignes d'Interligne se dressent sur les ondes de la 105.5 MHz. Entre les lignes d'Interligne s'alignent les cultures, les modes et nouvelles tendances ainsi que les faits marquants de la société. Interligne ces soirs au village, tape à l'œil et vis de ton sac. Nous irons dans cette édition d'Interligne à la découverte de la culture mundo. Ça sera dans le cadre de la rubrique « Soir au village ». Dans Tape à l'œil, nous nous intéressons à un phénomène devenu effet de mode. Des jeunes qui, à longueur de journée, sont sous les arbres, devant des boutiques et bien d'autres. Et dans Vie de ton sac, Interligne met à nu les relations qui existent très souvent entre les bailleurs et les locataires. Bienvenue à tous. Présent entre le sud-ouest du Tchad et le nord du Cameroun, le peuple Mundon est implanté au Cameroun dans le Mayo Kani et le Mayo Danaï. Nous allons parler de l'association des jeunes Mundon de Oula, la culture Mundon, ses différentes danses et traditions avec M. Jonathan Wani, membre de l'association des jeunes Mundon de Oula. L'entretien, c'est dans un instant. Oh, I am a vende. Yeah, yeah, I am a vende. Yawo, ma vende. Yawo. Monsieur Jonathan Wagné, vous êtes membre de l'association des jeunes Mundon de Oula, en abrégé AJEMOU. Alors dites-nous, comment est structurée votre association? Comment est organisée AJEMOU?
De manière générale, AJEMOU est une structure très large. Je ne peux pas, si je commence à détailler la structure d'AJEMOU, là, on peut passer toute une journée. Elle est très large, très grande. Mais de manière générale et brièvement, nous avons le président, le secrétaire, le censeur, chargé des activités rémunératrices, chargé des mouvements d'épanouissement, chargé de développement caisse, développement du village, aide et nécessité, les vulnérables, et les hommes ou bien les femmes en âge avancé, le chargé d'éducation et de la culture Mundon. Bref, je pense que c'est bon pour la structure, l'organisation d'AJEMOU de Oula.
Association Jeune Mundon de Oula, est-ce que cela signifie que les vieux ou alors les plus âgés n'ont pas le droit d'adhérer à votre association?
Ah, comment ça? Les vieux n'ont pas le droit d'adhérer à AJEMOU, comment? Sans vieux, sans les aînés, AJEMOU ne peut pas prospérer. Ils font bien partie de l'association. Hein? Les plus âgés, ils contribuent à la bonne marche de l'association. Ils ont la sagesse et l'intelligence pour nous permettre d'aller de l'avant. S'il y a des solutions, s'il y a des problèmes, les conseils, c'est grâce aux vieux. Les orientations, c'est grâce à eux. Nous tenons encore, nous sommes encore sur pied et nous allons aussi de l'avant grâce à eux.
Et quelle place est-ce qu'ils occupent au sein de votre association?
Ouh, le vieux, les places. Non, je ne peux pas dire un place, c'est les places. Parce que dans la structure, dans l'organisation d'AJEMOU, le vieux, les places de vieux sont bien, bien déterminées. Nous avons le trésorier et la trésorière. Nous avons pris des personnes mûres, des personnes âgées. Et qui peuvent bien nous orienter, bien nous garder ce que nous aurons, ce que nous gagnons dans l'association. Nous avons aussi le censeur, les censeurs, nous avons pris des personnes mûres, des personnes âgées, qui peuvent bien nous encadrer, qui peuvent bien sanctionner. Nous avons aussi les conseillers, ce sont toujours les personnes âgées qu'on a pris pour nous donner des bons conseils, pour nous orienter.
Parlez-nous des activités de votre association.
Wow, les activités de notre association, elle est nombreuse. Comme cité très haut, chargé de tel. Et nous avons ainsi plusieurs activités, à savoir travaux champêtres de l'association elle-même, les jobs de différentes natures qui se fait par groupe, les associations et les organisations de campagnes ou bien les organisations de championnats de vacances, venir en aide aux nécessiteux, c'est-à-dire qui sont en âge avancé, les vulnérables, encadrement des élèves et prendre et apprendre la lecture de la langue munda, la promotion de la culture et son respect. Voilà nos différentes activités. Il y en a plein d'autres, Là, ce sont les phares les plus importants que j'ai eu à mettre à la lumière de notre association.
Quelles sont de façon concrète les œuvres d'Ajemou dans la promotion de la culture munda?
Les œuvres d'Ajemou dans la promotion de la culture des munda, c'est le soutien, c'est-à-dire financièrement et physiquement et intellectuellement. Donc, je m'explique davantage. L'œuvre d'Ajemou, c'est le soutien de la communauté munda, du village en général. Parce que nous bénéficions tous dans cette association. Grâce à cette association, nous venons en aide à tout le monde. Donc, c'est l'œuvre de l'association ici.
Est-ce que les jeunes mundans s'intéressent vraiment à votre association?
Wow. Avec plein d'avantages, plein d'importance, et plein de découvertes. Ils y participent massivement. Parce qu'on y gagne, chacun y trouve son compte dans l'association. C'est pourquoi chacun a le désir, chacun a l'envie d'adhérer à cette association.
Et que faites-vous donc pour davantage intéresser ces jeunes-là?
Bon, pour intéresser ces jeunes, après réunion, après rencontre avec les membres, nous organisons des activités, nous soutenons aussi les personnes en besoin. Donc ce qui fait ça attire beaucoup de jeunes et certaines des aînés qui veulent aussi adhérer, mais c'est un peu limité quand même. Les aides, les besoins ne sont pas limités quand même, mais pour adhérer, c'est un peu limité. Alors on ne peut pas intégrer tous les monde.
Quand est-ce qu'a été créée l'association?
L'association, là, je n'ai pas la date exacte en tête, mais ça date déjà de quelques années, environ 10 ans, je ne me trompe pas. C'est grâce aux natifs de Wula. Ils avaient d'abord créé et quand ils sont repartis, d'autres sont partis en ville, l'association est tombée en faillite, on peut dire l'association est morte. Bon, et quand ils reviennent au village, ils viennent trouver que ça ne va pas, le village ne va pas, et beaucoup de gens, les élèves, les gens ne partent pas à l'école, et les vieux, les vieillards, ils n'ont pas de soutien, d'encadrement. Ils ont suggéré de revivre cela. Quand ils ont fait renaître l'association, avec l'intégration de quelques jeunes dynamiques et intellectuels, le jus de l'association a encore repris vie. Et jusque-là, ça continue. Ça fait déjà 5 ans que l'association ne fait que prospérer.
C'était donc ça l'idée fondatrice?
Et effectivement, vous avez bien deviné. Effectivement, c'est ça l'idée fondatrice d'Ajemou.
Maintenant, monsieur, entrant dans la culture proprement dite, les soirs dans les villages mundans, comment est-ce que ça se passe? Comment c'est organisé?
Les soirs dans la culture mundans, il y a deux périodes qui peuvent se spécifier. La manière suivante, en période de décembre, en période de froid, les gens se réunissent autour du feu pour en parler des problèmes du village, ce qui ne va pas trouver une solution et résoudre tout. Et en saison sèche ou bien en saison de chaleur, quand il y a la claire lune, on appelle chez le Mundang Mungay, Fimo Shienbe, en quelque sorte. Là, quand la lune est claire, c'est comme c'est l'électricité naturelle. Il y en a deux groupes qui attirent l'attention en ces périodes-là. En période de chaleur comme ça, il y a les plus petits, les jeunes qui se réunissent dans la cour. Il y a la cour de terrain large. Ils se réunissent en train de faire les petits fêtes, en train de chanter, danser. Et pour les aînés, les majeurs aussi, ils se réunissent, ils s'assoient peut-être dans la cour ou bien sous le hangar d'un grand-père. Là où les aînés se réunissent, ils sont en train de discuter entre eux, trouvant aussi les solutions. Chacun pose son problème. On amène l'histoire du village, comment les gens se sont installés, comment, autant de choses.
Une fois autour du feu ou au clair de la lune, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se dit?
Bon, autour du feu, on raconte des histoires, on raconte des contes, on amène des problèmes du village, on amène des problèmes de foyer, on amène des problèmes des élèves, des problèmes des étudiants, autant de choses.
Vous parliez d'histoires, monsieur. Vos histoires narrées sont-elles de nature à simplement divertir ou alors éducatives?
L'histoire racontée autour du feu, elle est divertifiante, elle est éducative aussi. Pour cela, pour moi, je vais vous raconter une histoire, une toute petite histoire éducative qui va de trait à la culture, à l'ethnie Mundang. Un oncle du village qui a passé sa vie professionnelle en ville, il s'est marié en ville, ses enfants ont grandi en ville. Vous avez aussi la vie de la ville aussi. Vous ne parlez pas votre langue maternelle ou paternelle, c'est toujours le français ou bien le foufouli. Et quand l'oncle a pris retraite, il n'y a pas moyen, il est reparti s'installer au village. Manque de moyens, l'oncle allait faire un petit désordre là, dans le village. Il a volé la chèvre de l'un de ses voisins. Il est venu, il a égorgé, il a préparé, c'est dans la chambre comme ça. Quand le voisin s'est rendu compte, il allait porter plainte. Les hommes en tenue, les gendarmes sont venus arrêter le monsieur en question, l'oncle. Il dit à l'un de ses enfants en Mundang que Viga Buriang Suli, Viga Inino Haifa, Mibiri, Mukongo Niki Jefenet, Vibi Hegain, Komu Kalkonomoga Mukopotoki. En français, dites à votre mère de passer de l'autre côté du mirail de la maison. Il y a la viande dans la chambre, vous le passez par la fenêtre pour qu'elle aille cacher ça, pas que les gens la viennent trouver ça. Alors, parmi ces gendarmes, il y a un monsieur, il est Mundang, il a suivi ce que le monsieur a dit à ses enfants. Mais les enfants n'ont pas compris ce que leur papa voulait dire. C'est là, le monsieur, le gendarme, est allé interpeller l'un de ses enfants à côté, les a dit, voilà ce que votre papa dit, faites cela. Et c'est comme ça, il allait dire aux enfants, là, les enfants ont exécuté. Et la commission, et quand les gens sont partis, le gendarme a interpellé le papa des enfants à côté, dit que voilà les conséquences, vous avez perdu vos enfants, ils ne connaissent pas la religion, ils ne connaissent pas la tradition, ils ne connaissent pas leur origine, et voilà que ça c'est grâce à moi que vous avez été sauvés. Maintenant, faites alors votre devoir comme il se doit, apprenez votre langue maternelle et paternelle à vos enfants.
L'importance des langues maternelles qui n'est vraiment pas démontrée. Dites-nous, monsieur, à présent, c'est quoi le Yékané? Quelle est sa symbolique pour le peuple Mundang?
Le Yékané, Quand j'entends le nom là, moi ça me fait un peu peur. Parce que ce n'est pas chose facile. Il faut être courageux. Surtout ceux qui sont en ville, ils ne connaissent pas vraiment ça. Mais ceux du village, ils donnent trop d'importance et ils valorisent le Yekane. Le Yekane, c'est la circoncision du village. Et quand tu ne fais pas la circoncision du village, on te considère comme une femme. Donc, tu es mélangé à eux. Et je veux faire appel à... Il y a encore un rite du village qu'on appelle Zumuri. Ou bien Mazumuri. Quand tu ne fais pas la circoncision du village là, donc quand le Mazumuri va sortir, si tu ne fais pas la circoncision du village, c'est que tu auras chaud. On va te chasser, on va te pourchasser juste pour te fouetter, te faire du mal. Et quand le Zumuri te fouette, c'est que c'est une malchance qui va te poursuivre. C'est pourquoi quand vous allez dans les villages, les femmes, quand on dit que les Zumuri sont dehors, les femmes là ne sont pas dehors, elles ne sortent pas. Et quand tu ne fais pas le Yekane, quand tu ne fais pas la circoncision du village, quand on dit que le Zumuri est sorti, toi aussi tu as la peur. Tu as la peur aussi, tu vas te mettre à courir. Mais quand tu fais la circoncision du village, il y a des moments qu'on peut vous mettre avec les humours et vous familiariser. Il y a des choses secrètes qui se passent là-bas, vous connaissez. Mais tant que tu ne pars pas, tu ne peux pas connaître. Mm-hmm. Effectivement.
Et à quelle période de l'année a-t-elle lieu?
La période de l'année de Yekane, c'est en vacances plus précisément, et en saison pluvieuse, vers le mois de juin, allant de juin à août. Parfois, ça peut aller début septembre avec les petits, avec la sortie. Ils organisent la sortie, c'est-à-dire que les retours à la maison, c'est une grande fête dans le village. Très grande fête.
Vous parliez tout à l'heure du Zumuri. C'est quoi exactement?
Ah, le Zumuri là. Auparavant, on ne peut même pas prononcer le nom de Zumuri là comme ça. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre et expliquer. C'est un rite traditionnel seulement. C'est un rite traditionnel. Mais, et ces rites traditionnels, ces Zumuri, ils sortent quand il y a un notable, un haut cadre du village qui décède et on le fait sortir pour honorer le décès de cet homme. Mm-hmm. Et c'est un truc, c'est la tradition. On ne peut pas expliquer ce que c'est, briller vraiment, c'est quoi le Mazumuri là. On ne peut pas expliquer. Mais c'est un rite traditionnel seulement.
Parlez-nous, monsieur, des différentes danses présentes en village Mundan.
Les différentes danses dans les villages Mundan sont plusieurs. Mais on va en parler sur deux types. Et la première danse, c'est une danse simple. Et on le pratique, c'est dans les mouvements festifs, quand il y a réception dans le village ou quand il y a comité de développement du village. Et cette danse-là s'articule dans les... Je peux dire, ils ont les tenues vestimentaires de la tradition même. Ils ont leur équipe, ils ont un groupe. Ils ont les tenues vestimentaires, ils ont les arcs, ils ont les flèches. Donc, je crois que c'est ce petit truc-là qui est très simple à la vue de tout le monde. Donc, on le fait régulièrement quand il y a la fête. Les gens le portent pour danser, pour se démarquer de la foule, quoi. On appelle, je crois que c'est le gourna. Et Le second là, c'est très important. Ça, c'est pratiquement, on parle de la tradition là, c'est celle-là. Mais celle-là, on ne néglige pas et on ne joue pas avec n'importe comment. Quand ça, c'est la danse de Mazumuri, on dit que quand ça sort pour danser comme ça là, quand ils sortent, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont nombreux, ces Guinaru là, ils sont nombreux. C'est quand il y a deux que ces Guinaru sortent pour danser et pour faire la pratique de certains rites pour le deux. Et ce n'est pas, quand ils sortent, ce n'est pas pour n'importe quel deuil qu'ils peuvent sortir. C'est pour les notables, pour les autorités. Ceux qui sont du village même, les grands-pères là, les origines, ceux qui sont vraiment des origines du village là, c'est quand ils meurent que ces guinaros sortent pour pratiquer ces danses, les petits rites. Mais c'est plusieurs guinaros, c'est pas un seul. Même ceux du pays voisin viennent aussi. Surtout quand c'est les notables comme les gongs, c'est-à-dire les rois, quoi. Je crois. Okay. Et les danses là s'appellent les danses Yiwuli. Parce que c'est de différents types. Donc le terme général là, c'est les Yi. Dama Yiwuli. Donc la danse de deuil.
Au-delà de vous faire appeler Blanc du Nord, l'opinion publique a tendance à dire que l'homme mundan est méchant. Qu'est-ce que vous dites à ce propos?
Moi, ça m'amuse quand on dit que l'homme mundan est méchant. L'homme mundan n'est pas méchant. L'homme mundan n'est pas méchant. C'est vrai que nous sommes les Blancs du Nord. Vous savez, l'homme mundan n'est pas... On dit quoi? L'homme mundan n'aime pas l'orgueil. N'aime pas plutôt le mépris. Donc, Mundan n'aime pas le mépris. Tu ne peux pas piétiner le Mundan facilement comme ça. Le Mundan ne se laisse pas faire. C'est pourquoi on dit que le Mundan est méchant. Le Mundan ne se laisse pas faire. Et d'ailleurs, le Mundan a été toujours à la tête de tout. Les Mundans ont d'abord pris la tête. Que ce soit à la société, que ce soit à la vie professionnelle, ça a d'abord commencé par les Mundans. Et par après, les autres ont essayé à ouvrir aussi les yeux. Ils ont pris aussi la trace des Mundans. Mais l'homme Mundan ne se laisse pas faire quand même.
Comme tout autre Mundan, est-ce que vous aimez le Niébé? Que représente le Niébé pour l'homme Mundan?
Wow, le Niébé. Quand je suis le nom Niébé là, ça me donne déjà le goût. Oh, c'est un condiment. Le Mundan, le Niébé, très délicieux, très appétissant. Cru, on peut manger le yébé. Sec, on peut manger le yébé. Cuit, on peut manger le yébé. Donc, le yébé est très bon, très délicieux. Ça a même des vertus. Ça a des vertus importantes pour la santé, pour l'organisme de l'homme. Maintenant, le yébé accompagne la viande. Le yébé remplace la viande. Le yébé remplace le poisson. Maintenant, les Mundans n'en trouvent même plus. Voilà que les autres sont entrés. C'est difficilement maintenant. Les Mundans ne trouvent pas les Niébé là même.
Pour finir cet entretien, Monsieur Wanyé, un mot à la communauté Mundan qui vous écoute.
Je veux beaucoup plus attirer l'attention de nos frères qui sont en ville et de ne pas laisser l'ethnie Mundan à la perdition de la génération future. Parce que je me rends compte que les gens, surtout les Mundans, avec, je ne sais pas si c'est l'orgueil, mais c'est la peur, ils n'ont pas le courage de s'exprimer en public ou bien au milieu de la foule avec l'un de ses frères. Ils le font en français ou bien en foufoulé. Tandis que je prends l'exemple de les Tupuri et ils n'ont pas honte. Partout, tu trouves un Tupuri. S'il y a un deuxième, ils vont parler. Ils vont discuter, dialoguer en Tupuri. Donc j'interpelle le Mundan. Ne laissons pas notre ethnie disparaître. Donc, je voulais juste Miyaka Fan, Isamundan, dans Marapu Ville, dans Naso Zaman Boka, Nafie Yeman, dans. Gapil yenge vezamu na gahoni komo hobe konala na muwe onyoko zama kiagi kanda pelmana soko puli.
Monsieur Jonathan Wanyé, membre de l'association des jeunes Mundans de Oula, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, à la prochaine. Thank you.
Ils sont à longueur de journée sous les pieds d'arbres, devant des boutiques et bien d'autres points de la rue, à ne rien faire. Ces jeunes, pour la plupart, disent être là pour recueillir des informations, passer du temps entre amis et bien d'autres. Écoutons quelques-uns d'entre eux qui se sont confiés à nous.
En venant me prélasser sous les arbres, généralement, moi, je viens recueillir des informations, des idées, des pensées des uns et des autres. C'est chacun qui a sa façon de faire, c'est chacun qui a une histoire. Généralement, soit c'est les comptes rendus des débats télévisés, des débats politiques, d'actualité, et souvent même des commentaires sur le football. Ouais, n'est-ce pas? Et cela nous permet également de nous défaire de l'ennui et du vice. On se retrouve entre potes et puis on passe la journée, chacun rentre donc pétri d'une petite expérience ou bien d'une petite connaissance, et ça fait la fierté et la joie de tout un chacun.
Moi c'est Fabio Capello. Si je suis dans ce carrefour, c'est juste pour perdre le temps de temps en temps. Je viens perdre le temps juste que on n'a rien à faire, nous sommes des jeunes, on vient perdre le temps et l'ennui nous tient vraiment à fort. Donc c'est pour cela qu'on vient perdre le temps avec les amis ici, un peu de tout. C'est pour cela, carrefour. Donc c'est un peu ça.
Moi je suis là ici au carrefour parce que j'aide ma mère à vendre. Et certaines personnes viennent rester à côté de moi pour juste me tenir compagnie comme ça quand ils n'ont rien à faire à la maison. Bon, on reste là, on passe du temps, on tape des commentaires.
Moi, rester au carrefour n'est pas une bonne chose. Parce que c'est vrai que moi, je reste au carrefour pour vendre les gâteaux de ma mère. C'est une obligation pour moi de rester au carrefour. Et là, quand tu restes même au carrefour, tu entends parler de certaines choses, tu as même mal. Comme certaines paroles des gens, commérage, congossa. Et même parfois, les ragots par-ci, par-là. Et c'est pas bien de rester souvent au carrefour. Moi, je n'improvise pas aux gens de rester au carrefour. Moi, c'est la meilleure.
Je suis une vendeuse de coquilles. Je vends au carrefour de Vouya. Des fois, quand j'amène le coquille au carrefour, si ça passe, Moi, ça me plaît de rester avec les gens au carrefour pour causer et on dialogue. C'est ça qui m'intéresse pour la vente de coquilles.
Moi, c'est Jean-Baptiste. Je m'assois souvent au carrefour de Bruya pour avoir certaines informations, peut-être du football, l'actualité.
Quand moi, je n'ai rien à faire, je vais perdre mon temps au carrefour. Donc, je trouve les informations. Chaque fois, on vient rester, on tape le divan avec les amis. Donc, c'est comme ça qu'elle fait pour tuer ma journée. Donc.
Dans Vide ton sac, nous allons vider le cœur des bailleurs et des locataires. La relation qui lie ce couple est pour la plupart pacifique, mais aussi conflictuelle des fois. Écoutons d'abord quelques-uns de ces locataires. Entre ces deux parties, c'est généralement un jeu de chiens et de chats. Écoutons plutôt les locataires.
Pour ma part, en fait, depuis quelque temps là, bon, en fait, je peux dire que depuis le début de l'année académique, je ne m'entends pas avec mon nouveau bailleur puisque bon, j'ai déménagé. Et le problème qui se pose, c'est quoi? Je suis d'abord avec un cochambré et il exige d'abord au début qu'il ne veut pas plus de deux personnes dans une chambre. Et du coup, avant de venir, je l'ai bien expliqué que bon, nous sommes deux. Soit il accepte, soit il refuse. Et il commence à nous menacer. Bon, mais on gère ça quand même. Et notre problème se pose au niveau du loyer. Nous, quand on entrait, il nous a pas exigé qu'on devait payer ça en deux ou trois tranches. Bon, on devait payer chaque fin du mois. Mais subitement, en plein au milieu de l'année académique, il exige qu'on doit payer ça en deux tranches. Bon, on paye 5 mois, après on paye encore le restant de mois. Et du coup, nous, on a dit que nous, ça pesait sur nous. Bon, ça ne va du tout pas. Et il y a également d'autres petits problèmes du genre. Il dit qu'il ne veut pas trop de visiteurs dans la maison. À 22h, il veut fermer son portail. Nous, on existe, mais nous sommes des jeunes. On doit souvent, il peut arriver qu'on peut sortir avec les amis, on peut rentrer à des heures tardives. Il doit quand même nous comprendre.
Je viens de déménager récemment dans la maison, mais ce qui m'effraie, la nuit, j'entends des bruits dans le plafond. Je ne sais pas si c'est des oiseaux ou bien des rats, des chats. J'ai parlé de ça à mon bailleur parce que ça m'empêche de dormir la nuit, mais jusqu'à présent, il ne m'a pas répondu. Je suis un peu confus là. Donc, c'est le problème que j'ai. Sinon, de rester là, avec le temps, peut-être je vais découvrir ça, mais sinon, c'est le seul problème que je fais face.
Ma relation avec mon bailleur n'est pas assez bonne parce qu'il me contrôle. Il veut tout le temps voir qu'est-ce que je fais dans sa maison. Donc, c'est ça qui m'énerve avec lui. Et il veut tout le temps de l'argent. Donc, c'est ça qui me dérange avec lui.
Je peux dire que la relation entre moi et mon bailleur n'est pas au top parce que le gars, il vient m'harceler presque tout le temps. Il vient souvent à la maison, bien que ce soit chez lui, mais je loue quand même, je paye. Il vient, il contrôle mes activités, voir qu'est-ce que je fais concrètement dans sa maison. Oh, c'est de mon argent que je vis. Il vient et la fin du mois, pas trois jours, il vient, il réclame l'argent. Il vient avec une attitude d'agressivité. Il vient, il me fait les problèmes. Il dit, bon, soit tu paies, soit tu quittes ma maison. Et c'est un peu ça qui me dérange avec lui. Il me assied tout le temps. Il contrôle qui vient chez moi, qui sort chez moi, qu'est-ce que je fais dans ma chambre. C'est un peu ça. Je me sens gêné, en fait. Bien que ce soit sa maison, c'est mon argent.
En tant qu'étudiant et locataire, la relation qui existe entre moi et mon bailleur, c'est infernal. C'est pas facile. Dès que la fin du mois sonne, 4h, coin, je sors, bailleur, attendez que papa me fait un dépôt, je vous libère. 7h, il est là. 9h, il est là. Parfois, je suis obligé de fermer la porte et d'escalader le mur et partir pour ne pas revenir. C'est-à-dire, c'est un rapport en réalité qui s'est traduit par une guéguerre qui n'a pas de nom. Il n'a pas de temps à me laisser, même pas un jour après la fin du mois. Mais on va faire comment? On va faire comment? Le loyer, c'est l'insociable sociabilité de l'homme. Nonobstant le fait qu'il soit différent, hautain envers moi, je suis obligé de coopérer. Bon, je n'ai pas le choix, je veux me battre. Mais sinon, la relation n'est pas pacifique, mais plutôt conflictuelle, à la limite.
En tout cas, nous, on n'a pas de problème avec notre bailleur. Tant qu'on lui donne son argent, il n'y a pas de problème, il est trop relax avec nous. Il ne dérange pas.
Bon, moi, je n'ai pas de souci avec mon bailleur. Tant que l'argent du loyer arrive à temps, même si ça avait un retard de 2-3 jours, il n'y a pas de souci. Qui ne sont pas patients, qui n'ont pas de patience, bon, ils sont là. Bon, quand la fin du mois s'approche, il est devant ta porte. Dès que le mois finit, il est déjà là. Il n'attend pas que le parent envoie l'argent pour que je lui remette. Et d'autres cherchent à savoir ce que le locataire fait de sa maison. Qu'est-ce que le locataire fait, qu'est-ce qu'il entre, quand est-ce qu'il sort. Bon, ils suivaient la vie du locataire. C'est une chose qui n'est pas souvent bon. Quand tu as un locataire, quand il loue la maison, il loue tout ce qui se trouve dans cette concession. Ce n'est pas question qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire chez toi. Mm-hmm. Ou tu le loues la maison. Ce n'est pas bon. Et le bailleur doit être, un bailleur doit être patient. Parce qu'il peut arriver que le parent, pour nous les étudiants, le parent peut ne pas envoyer l'argent à temps. Il doit patienter. Tout ce qu'on paye avec caution. Donc, ça doit être harmonieux.
Moi, avec mon bailleur, il n'y a pas de problème. On s'entend bien. Et s'il y a l'argent là, je lui donne ce qui lui revient, ce qui lui est de droit. Et là, on est réglo, si on peut dire. Il y a un terrain d'entente vraiment énorme. Et là, même souvent, il est très content du fait qu'il entre seulement en possession de son bien. Et il y a l'entretien et autres, donc il n'a pas de problème.
Quant à moi, on n'a pas de problème avec nos bailleurs. Si c'est pour l'argent, des problèmes d'argent. Et qu'on n'a pas l'argent du mois pour le payer, on avance un peu. Puis on avertit ou bien on avance un peu. En attendant de trouver le reste et puis compléter à la fin.
Il vous comprend.
Il nous comprend. Sinon, ils n'ont jamais eu de problème avec eux.
Moi, je suis un étudiant et je loue. Donc, entre mon bailleur et moi, bon, en fait, c'est une femme, c'est une bailleuresse. Entre ma bailleuresse et moi, par exemple, nous, on n'a pas de problème. Parce que d'abord, c'est une femme qui m'a pris comme son enfant. Parce que j'ai déjà fait 4 ans chez elle. Elle m'a déjà pris comme son enfant. Son problème est que tu payes son argent. Que ce soit à temps ou pas, que tu payes son argent. C'est ça son problème. Sinon, c'est une femme géniale, vraiment. Elle n'a même pas de problème. Un bailleur, par exemple, qui prépare, elle te donne. Ça veut dire que tout se passe entre vous, non? Et son problème aussi est que quoi? Que tu rentres vite. Une personne qui n'est pas l'un de tes parents, qui veut que tu rentres vite à la maison, je pense que c'est quelqu'un qui veut de ton bien. Donc vraiment, c'est une bailleresse très, très, très cool pour moi.
Si les locataires se plaignent du comportement des bailleurs, ces derniers ont aussi des raisons. Ils les ont évoquées à nos micros. Nous les écoutons.
Dans la maison à louer, n'est-ce pas? Comme tu vois ça, ça a des problèmes. Les autres viennent louer, avoir peut-être une seule personne dans la maison. Le lendemain, tu vas en trouver plus de 10 personnes qui sont dans la chambre. Quand tu te retrouves, toi-même qui as donné d'abord la maison à quelqu'un, et si maintenant il y a la surveillance de la maison à lui qui vient, s'il vient maintenant te retrouver, peut-être qu'ils sont à 5 ou 2 dans la maison, et que toi tu as donné la chambre à une seule personne. Finalement, qui prend d'abord la charge de ces 5 personnes qui sont là-bas? Donc, vous voyez que nous, on a des problèmes. Et puis encore, il y a certaines choses que quand ils viennent, ils ont des amis qui viennent même peut-être dans la maison, ils se lavent dans la maison. Il prend la douche même ensemble et finalement, l'année que tu as mis la douche n'atteint pas d'abord cet moment de ce que tu avais fait. Tu viens te retrouver que le cabinet, la douche est remplie, tout ça là est fait. Donc finalement, ce n'est pas nous qui font à ce que nous on dérange d'abord les gens qui louent chez nous. Donc ce sont eux-mêmes qui font à ce que quelque chose ne va pas. Et nous on cherche maintenant la réponse, comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas les déranger? C'est quoi ça? Aussi, certaines personnes qui viennent à chaque fin d'année en partant, ils laissent leurs effets à la maison. Dans la maison, ils disent qu'ils ont loué pour toute l'année. Après revenir maintenant, ils ramassent leurs choses, ils quittent. Donc quand ils quittent, tu les demandes d'abord de payer, ils disent que non, ils ont payé d'abord l'occasion pour un an. Après, il y a les autres même qui viennent, qui quittent. Là où il prend peut-être de 2 à 3 mois. Il se déplace la nuit. Tu ne peux pas d'abord savoir là où ils sont. Et quand tu parles de demander là où ils sont, ils te disent qu'ils ont déjà fini leur moyen, donc ils n'ont rien. C'est juste ça. Ça aussi, c'est un problème.
Toi, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec mes locataires. Je prends comme sont mes propres enfants à moi-même. Et c'est que des fois, qui dérangent un peu. Ils sont à 2 qui savent demander la chambre. Mais des fois, ils se ressemblent, des fois, à 2, à 3. Ils mettent aussi leurs amis, des fois, aussi dedans. Mais sinon, je n'ai pas beaucoup de problèmes. Il y a les arriérés, mais pas, je ne les dérange pas aussi trop, comme sont mes propres comme mes enfants.
Pour ma relation avec mes locataires, moi, je ne trouve pas d'inconvénient dans ça. Parce que moi et mes locataires, je m'entends très bien avec mes locataires. Du point où, même si le mois fini et que l'un d'eux n'ont pas pu avoir des sous d'argent pour me payer, pour me restituer. Ils prennent toujours de la peine de m'appeler avant pour me dire, bailleur, vraiment, le mois-ci, j'ai des difficultés et je ne pourrais pas restituer un peu ton argent. Je me demande juste que si vous pouvez patienter. Et de mon côté, je ne prends pas mal parce que je sais que c'est pas tous les jours qu'on a l'argent pour payer une location, surtout pour celui qui se bat. Et même celui qui travaille même des fois pour payer même une location, c'est difficile. Donc, j'attire l'attention de tous les bailleurs d'être vraiment paternels pour leurs locataires. Parce que, et compréhensible aussi. Et quand je dis compréhensifs, donc ils doivent aussi être paternels. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes doigts. Parce que les doigts n'ont pas la même taille, quoi. Et si moi aujourd'hui bailleur ou bien l'autre est aussi bailleur et que nous avons les locataires chez nous, vraiment, il faudrait qu'on puisse les comprendre aussi. Et c'est juste ça.
Oui, le problème de location là, c'est compliqué. Vraiment très difficile quand tu trouves un mauvais locataire quand même. J'ai eu affaire à un locataire qui a fait presque un an sans payer le loyer. Et au début du mois là, il a commencé en 2, 3, 4 mois là. Il réglait bien. Mais après là, c'est fini et il a disparu. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Après là, il a apparu, il vient, il me donne un sac de riz. Je dis que mais, les restes là, on va faire comment ça? C'est pour me fermer la bouche ou bien c'est quoi? Il dit que non, que je dois patienter, que ça ne va pas. Il dit que en tout cas, nous sommes des hommes. Et moi, je te donne quelques mois pour me laisser la maison. Parce que c'est inadmissible que moi, j'entretiens la maison. Toi, tu es là, tu viens, tu restes, tu ne règles pas le loyer.
Les guerres passent, seules les œuvres de la culture ne passent pas et seule Interligne lie à travers les cultures. Interligne dans Soir au village nous a conduit dans la culture munda à travers ses différentes danses et ses traditions. Dans Tape à l'œil, les jeunes sous les arbres se sont prononcés sur les raisons pour lesquelles ils y sont à longueur de journée. Et dans Vie de Tansac, que les bailleurs et locataires ont vidé leur cœur quant aux différents conflits qui les opposent très souvent. Il y avait pour vous servir Maxino à la partie technique, David Bayan à la coordination et dans ce studio, l'idole Wawa. Souvenez-vous, amis auditeurs, la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.